Podcast numéro 24, nous continuons la lecture de la lettre encyclique du pape François Dilexit Nos, il nous a aimés. Nous sommes toujours dans le chapitre 4 et nous lisons aujourd'hui les paragraphes 151 à 157 sur la consolation.
La dévotion de la consolation. La blessure du côté d'où jaillit l'eau vive est encore ouverte chez le Christ ressuscité. Cette large blessure faite par la lance, ainsi que les blessures de la couronne d'épines qui apparaissent souvent dans les représentations du Sacré-Cœur, sont inséparables de cette dévotion. Nous contemplons en elle l'amour de Jésus-Christ, qui fut capable de se donner jusqu'au bout. Le cœur du ressuscité conserve ces signes du don total, qui entraîna une intense souffrance pour nous. Il est donc en quelque sorte inévitable que le croyant veuille réagir non seulement à ce grand amour, mais aussi à la douleur que le Christ a accepté d'endurer pour tant d'amour.
Avec lui sur la croix. Il vaut la peine de mentionner cette expression de l'expérience spirituelle qui s'est développée autour du cœur du Christ, le désir intérieur de le consoler. Je n'aborderai pas ici la pratique de la réparation, que je considère mieux placée dans le contexte de la dimension sociale de cette dévotion et que je développerai dans le chapitre suivant. Pour l'instant, je voudrais seulement me concentrer sur ce désir qui apparaît souvent dans le cœur du croyant amoureux lorsqu'il contemple le mystère de la passion du Christ et qu'il la vit comme un mystère. Non pas seulement rappelé, mais par grâce, rendu présent ou mieux, nous rendant mystiquement présent à ce moment rédempteur. Comment ne pas vouloir consoler le bien-aimé, s'il est le plus important ?
Le pape Pie XI a voulu justifier cela en nous invitant à reconnaître que le mystère de la rédemption par la passion du Christ transcende, par la grâce de Dieu, toutes les distances de temps et d'espace. S'il s'est donné sur la croix pour les péchés à venir, les nôtres, de la même manière, nos actes offerts aujourd'hui pour sa consolation parviennent par-delà le temps jusqu'à son cœur blessé. Si, à cause de nos péchés futurs mais prévus, l'âme du Christ devint triste jusqu'à la mort, elle a sans nul doute recueilli quelques consolations, prévues elle aussi, de nos actes de réparation alors qu'un ange venant du ciel lui apparut pour consoler son cœur accablé de dégoût et d'angoisse. Ainsi donc, ce cœur sacré, incessamment blessé par les péchés d'hommes ingrats, nous pouvons maintenant, et même nous devons, le consoler d'une manière mystérieuse, mais réelle.
Les raisons du cœur. Il pourrait sembler que cette expression de dévotion n'ait pas de support théologique suffisant. Mais en réalité, le cœur a ses raisons. Le sensus fidelium perçoit qu'il y a là quelque chose de mystérieux qui dépasse notre logique humaine, et que la passion du Christ n'est pas un simple fait du passé. Nous pouvons y participer par la foi. Méditer le don de soi du Christ sur la croix est plus qu'un simple souvenir pour la piété des fidèles. Cette conviction est solidement fondée dans la théologie. À cela s'ajoute la conscience de notre péché, qu'il a porté sur ses épaules blessées, et de notre insuffisance devant tant d'amour qui nous dépasse toujours infiniment.
Quoi qu'il en soit, nous nous demandons comment il est possible d'être en relation avec le Christ vivant, ressuscité, pleinement heureux, et en même temps de le consoler dans sa passion. Il convient de considérer que le cœur ressuscité conserve sa blessure comme un souvenir constant, et que l'action de la grâce provoque une expérience qui n'est pas entièrement contenue dans l'instant chronologique. Ces deux convictions nous permettent d'admettre que nous nous trouvons sur un chemin mystique qui dépasse les tentatives de la raison et exprime ce que la parole de Dieu elle-même nous suggère. Mais, écrivait le pape Pie XI, quelles consolations peuvent apporter au Christ régnant dans la béatitude céleste ces rites expiatoires ? Nous répondrons avec saint Augustin, « Prenez une personne qui aime, elle comprendra ce que je dis. Toute âme aimant Dieu avec ferveur, quand elle regarde le passé, peut voir et contempler dans ses méditations le Christ travaillant pour l'homme, affligé, souffrant les plus dures épreuves, pour nous les hommes et pour notre salut, presque abattu par la tristesse, l'angoisse et les opprobres. Bien plus, écrasé à cause de nos fautes, dans ces blessures nous trouvons la guérison. Tout cela, les âmes pieuses ont d'autant plus de raisons de le méditer que ce sont les péchés et les crimes des hommes commis en n'importe quel temps qui ont causé la mort du Fils de Dieu.
Cet enseignement de Pie XI mérite d'être pris en considération. En effet, lorsque l'Écriture affirme que les croyants qui ne vivent pas en accord avec leur foi crucifient pour leur compte le Fils de Dieu, ou que lorsque j'endure les souffrances pour les autres, je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ, ou que le Christ, durant sa passion, a prié non seulement pour ses disciples d'alors, mais pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en lui, elle dit une chose qui brise nos schémas limités. Elle nous montre qu'il n'est pas possible d'établir un avant et un après sans aucun lien, même si notre pensée ne sait pas comment l'expliquer. L'Évangile n'est pas seulement à réfléchir ou à remémorer dans ses différents aspects, mais à vivre, tant dans les œuvres d'amour que dans l'expérience intérieure. Et cela vaut surtout pour le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Les séparations temporelles que notre esprit utilise ne semblent pas contenir la vérité de cette expérience croyante dans laquelle se fusionne l'union avec le Christ souffrant, et en même temps la force, la consolation et l'amitié dont nous jouissons avec le ressuscité.
Voyons alors l'unité du mystère pascal dans ces deux aspects inséparables qui s'éclairent mutuellement. Ce mystère unique, rendu présent par la grâce dans ces deux dimensions, fait que nos souffrances sont illuminées et transfigurées par la lumière pascale de l'amour, alors même que nous cherchons à offrir quelque chose au Christ pour le consoler. Nous participons à ce mystère dans notre vie concrète parce que, par avance, le Christ a voulu participer à notre vie. Il a voulu, par avance, vivre en tant que tête ce que son corps ecclésial allait vivre, tant dans les blessures que dans les consolations. Lorsque nous vivons dans la grâce de Dieu, cette participation mutuelle devient une expérience spirituelle. En définitive, le ressuscité, par l'action de sa grâce, nous permet d'être mystérieusement unis à sa passion. Les cœurs croyants qui font l'expérience de la joie de la résurrection le savent, mais ils désirent en même temps participer au destin de leur Seigneur. Ils sont prêts à cette participation par les souffrances, les peines, les déceptions et les peurs qui font partie de leur vie. Ils ne vivent pas ce mystère dans la solitude, parce que ces blessures sont également une participation au destin du corps mystique du Christ, qui marche au milieu du peuple saint de Dieu. Celui-ci porte en lui le destin du Christ en tout temps et en tout lieu de l'histoire. La dévotion de consolation n'est pas anhistorique ni abstraite. Elle se fait chair et sang dans le cheminement de l'Église.
Voilà pour aujourd'hui. Nous avons donc lu les paragraphes 151 à 157. Nous sommes appelés aujourd'hui à désirer consoler le cœur du Christ. Je vous invite à vous mettre devant une image de la passion du Christ, une croix, et à lui exprimer votre désir de consoler Jésus dans ses souffrances endurées à cause des pécheurs que nous sommes. Bonne journée, à demain.